Oui, alors d'emblée, je serais un mauvais élève. Je ne suivrais ni le questionnement, ni même les propos qui viennent d'échanger. Non pas que je ne sois pas d'accord avec ce qui a été dit depuis ce matin, mais je dois vous faire part de mon grand malaise à participer en anticipation à cette journée, et puis à mon grand malaise que je ressens là très, très concrètement à l'instant, à participer à ce grand récit collectif dans lequel nous sommes depuis ce matin. Puis que nous sommes parfois ailleurs quant à la formation des maîtres et à la formation des formateurs. Alors je vais quand même m'y essayer à ma façon. Je voudrais juste dire que je parle comme directeur, alors c'est pas parce que mon titre a une quelconque importance, mais c'est vraiment de là d'où je parle. Hein. Je ne suis pas un formateur de l'UFM quand je prends la parole, je suis celui qui se pose un certain nombre de questions, et je crois, disant cela, exprimer le point de vue de quelques-uns de mes collègues directeurs ou directrices dont je suis le plus proche. Alors, quand même, je voudrais, pour rentrer un petit peu dans cette discussion, cette table ronde, peut-être dire que l'enjeu de la formation de formateurs, tel que nous en parlons ici, nous invite à une alternative. Soit il s'agit de s'adapter aux évolutions en cours, et notamment à la réforme de la formation des enseignants. Ce matin, on a évoqué, comme beaucoup de fois antérieurement, la nécessité dans laquelle les formateurs de formation initiale et continue devront, ou éprouveront en tout cas le besoin de l'être, eux-mêmes masterisés. Et avec cette question qui était posée par Richard Etienne à l'instant, les infirmières, c'est pas masterisé pour enseigner dans des masters, c'est masterisé pour enseigner dans un niveau licence. Mais on en est là. Autre élément de cette adaptation, c'est la traduction, hein, Michel, quand tu introduisais, et puis je crois que ça a été redit à plusieurs reprises. Traduire quoi ? Ben, traduire cette importante activité de formation de formateurs dont les IUFM n'ont pas à rougir. Certes, on peut faire beaucoup de critiques, mais moi je peux vous dire que quand on arrive à l'université, quand même pas tout à fait une petite université, Claude Bernard Lyon, une des plus grandes, quantitativement, une plus grande université de France, sciences et médecine principalement, quand on arrive et que sur certaines de nos activités de formation de formateurs, on vient nous dire, mais ça nous intéresse, et je pense tout particulièrement à l'évaluation des compétences. Je dis qu'après tout, la formation de formateurs, qui est quasiment consubstantielle à la formation des enseignants, Anne-Marie Chartier évoquait le temps des écoles normales, que moi je n'ai pas connu de l'intérieur, mais je sais bien, c'est consubstantiel, et ça, c'est remarquable. Chercher dans les universités l'équivalent, pas quantitativement, mais l'équivalent. Alors certes, certaines universités ont aujourd'hui mis en œuvre des procédures, voire même des dispositifs de formation de leurs jeunes maîtres de conférences. Ça s'appelle souvent des services universitaires de pédagogie, mais on est loin du compte, et dans la quantité et dans la qualité. Alors ça, c'est un premier aspect de la formation de formateurs. L'autre aspect, je parlais d'une alternative, excusez-moi, c'est se dire, ben voilà, aujourd'hui, il faudrait peut-être profiter de ce capital accumulé au fil des années et qui s'est traduit, je crois que c'est important de le souligner, dans la création de DESS, devenus des masters, bon, on en a évoqué quelques-uns. Il y a des projets qui étaient dans les tiroirs, j'en dirais peut-être un mot ici à Lyon, bon, qui ne sont pas sortis pour des raisons circonstancielles, mais des circonstances lourdes, et c'est bien ça qui me préoccupe. Profitons donc de cette réforme pour peut-être adapter nos propres instituts aux nouvelles règles du jeu, mais surtout pour repositionner, transformer nos instituts et dans leurs activités, dans leurs missions, puisqu'après tout, nous avons un capital à faire valoir. Et cette idée, elle traverse les échanges à l'occasion. J'ai été insuffisamment attentif ce matin, je ne l'ai pas beaucoup entendu, Mais moi, ça m'avait frappé de voir que des inspecteurs généraux, alors certes, pas nos inspecteurs généraux, ça y est, j'ai un petit trou de mémoire, enfin, du côté de l'IGAENR, hein, qui, dans un rapport, évoquait cette idée complètement sidérante, quand on y regarde un peu plus près, que les UFM intégrés pourraient être la base d'une véritable formation des enseignants du supérieur. Mais c'est bien la question qu'on peut se poser, certains se la posent, et je crois qu'il y a là une piste qu'il faudrait explorer. Alors c'est pour ça que, ici à Lyon, il y a quelques années, plus précisément, le PRESS a commencé à se construire, et j'ai eu la chance, étant directeur d'un IUFM non encore intégré, de participer à l'aventure de la constitution d'un des premiers PRESS en termes purement chronologiques, hein, j'entends, français, et avec nos partenaires les plus naturels, l'INRP, avec les collègues de Lyon 2, en raison de la présence à Lyon 2 de l'ISPEF, de Sciences de l'éducation, on s'était dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire autour des compétences réunies en matière de pédagogie, en matière de formation d'adultes, en matière de formation de formateurs, etc. Et cette idée a intéressé, y compris nos proches voisins des deux écoles normales supérieures, qui font un petit peu le même métier que nous, un petit peu. L'idée est allée jusqu'à proposer un projet de master du PRESS en matière de formation de formateurs. Le PRESS a connu son histoire, l'IUFM aussi. Je n'étais plus membre du PRESS, représenté par mon président, donc j'ai un peu décroché. L'INRP a été obligé de se repositionner parce que c'était pas si simple que cela, qu'un établissement national rentre dans un PRESS, enfin, c'était un peu compliqué. Et puis surtout, la loi LRU est venue casser la dynamique du PRESS et ces projets-là qui n'étaient pas au cœur de ce que sont d'abord les presses, c'est-à-dire la grosse affaire des écoles doctorales et des labos de recherche. Bon, ce projet-là, c'est perdu un peu dans les sables, jusqu'à ce qu'on essaye l'an dernier, hein, je me retourne vers Michel, parce qu'on a beaucoup échangé sur cette question et on y a un petit peu travaillé, se dire, dans le contexte nouveau, voilà, il faudrait peut-être qu'il y ait un master de formation de formateurs proposé dans cette académie par tous ceux qui ont compétence à y contribuer. Et vous voyez bien qu'en adoptant cette démarche, ce que nous essayons de faire, ce que nous aurions aimé faire, ce que nous allons peut-être faire, c'est bien de passer du côté du second membre de mon alternative, c'est-à-dire nous positionner autrement dans l'université comme compétent ou prétendant l'être, donc nécessité évidemment de faire valider et légitimer ses compétences, à nous engager dans la formation de formateurs. Ce qui nous permettrait, par rapport aussi aux discussions évoquées, enfin qui ont été explicites ou en filigrane tout au long de la matinée, de sortir, enfin, en tout cas c'est mon point de vue, je sais qu'il est discutable, mais enfin quand même, de sortir de l'endogamie éducation nationale et de jouer la carte, moi ça me plaît de parler juste après Richard Etienne, la carte qui a été jouée à Montpellier, parce que je pense que c'est la seule qui soit bonne. Alors, faut-il que je vous précise que je viens d'université, j'ai une longue histoire universitaire avant d'avoir une histoire à l'UFM. Alors, voilà quelques éléments que je voulais pointer. Quand je vous faisais part, puisque je sens que je vais bientôt, mon temps de parole va être bientôt terminé, je vous faisais part de mon embarras tout à l'heure. J'ai écrit ce matin, après que, à plusieurs reprises, il lui était dit « Oui, mais ça, c'est un projet théorique. Moi, j'ai écrit « projet virtuel ». Vous commencez à comprendre où je veux en venir. Et j'ai aussi noté « C'est une histoire que nous nous racontons. » que nécessairement nous devons nous raconter. Parce que je voudrais être sûr que, moi, directeur d'IUFM, que dans un an, je serai encore acteur de la formation des enseignants. Hein ? Je suis désolé de mettre les pieds dans le plat, hein, mais rien ne me le garantit. Hein. Si je personnalise le propos, c'est pour lui donner toute la force. C'est un vrai témoignage que je fais là. Hein, rien ne me le garantit, puisque depuis des mois, hein, nous sommes toujours dans l'attente de la confirmation des annonces qui ont été faites et qu'à chaque fois, nous constatons que les confirmations ne confirment pas les annonces, mais les infirment, ou en tout cas les modulent de telle façon que nous ne savons plus où nous en étions. Le dernier épisode, je suis navré, mais c'est de revenir à des choses aussi prosaïques, c'est la possibilité ou non que les étudiants qui s'étaient inscrits en grand nombre dans de nombreux IUFM, en tout cas ici à Lyon, je peux vous l'assurer, nous risquons d'avoir plus d'étudiants que l'année dernière. Au mois de juin, jamais personne dans mon équipe ni moi-même n'aurions pu imaginer cela. Mais il y a encore quelques jours, nous n'étions pas sûrs qu'ils pourraient s'inscrire au concours. Bon, c'était un malentendu, nous a-t-on expliqué. Vous me permettrez de penser que le malentendu, c'est la bonne façon de dire on a raté notre coup, on fera mieux la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, c'est au mois de décembre. Quel va être le cadrage au mois de décembre ? Quel va être le cadrage des concours ? Quand on sait, quand on nous dit, c'est peut-être des leurres, c'est peut-être des rumeurs, que la diversité du métier nécessite la diversité des concours. Jusque-là, intellectuellement, moi, ça me va. Quid de la formation préparant au concours ? Qu'est-ce qui restera de la formation des enseignants ? Qu'est-ce qui restera de l'unité du métier ? Qu'est-ce qui restera de cette aventure peut-être malheureuse, peut-être glorieuse, enfin, c'est pas à moi de vous le dire ici, qu'ont représenté ces presque 20 années d'IUFM ? Qu'est-ce que nous aurons à faire plus concrètement l'année prochaine ? Et ma question, hein, que je reviens à la formation de formateurs, est la suivante. Est-ce que la carte à jouer, parce que ça va pas s'arrêter d'un coup, c'est pas possible. Les institutions ne peuvent pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc il y aura quelque chose qui durera. L'IUFM ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais est-ce que il faut, pour finir, est-ce qu'il faut que notre formation de formateurs, elle reste endogamique ? Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, quand on propose, comme mes collègues voulaient que nous le fassions à Lyon, des spécialités dans nos mentions de master, une spécialité formation de formateurs, bien sûr, c'est techniquement, c'est pratique, c'est habile, mais c'est reconnaître que nous ne sommes pas capables de faire ce changement, moi, qui me semble nécessaire, et de viser un vrai projet de création d'un master de formation de formateurs, pas dédié plus particulièrement à l'éducation nationale ou à l'enseignement. Mais quand on est dans une académie de la vague A, qui doit rendre les copies pour le 15 octobre, enfin, c'est râpé, on en a pris pour 4 ans, ou 2 ans si on arrive à faire du mi-parcours. Alors, mi-parcours n'existe pas, mais il existe quand même. Enfin, c'est encore ce qui se dit, semble-t-il, du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais voilà. C'est pour ça que j'étais très embarrassé, que je suis pas... Enfin, je suis un peu soulagé de vous avoir dit tout ça, même si j'ai bien conscience que j'ai pas fait beaucoup progresser la réflexion collective. Merci.